Le dévoilement de Dieu numéro 130. Les 10 Vierges. 8 décembre 2019. Pasteur Brian Kozurek. Maintenant, ce matin nous allons nous éloigner pour prendre quelques prédications et relier les 10 Vierges avec ce que nous voyons dans notre étude sur la folie du temps de la fin. Maintenant, souvenez-vous que dans cette étude du temps de la fin, nous voyons que seuls ceux qui ont la pensée de Christ, Néhémie, deviendront pas fous en cette dernière heure. Toute autre personne deviendrait folle, et nous voyons cela s'accomplir dans cette nation et à travers le monde alors que nous en parlons. Frère Branham a dit dans sa prédication, être conduit 7 décembre 1965 p. 119 au Dieu, laisse-moi aller, Seigneur. Néhémie me laisse pas, Jésus. Laisse-moi aller avec toi, Père. Je n'aimerais pas rester ici sur cette terre pour voir arriver cette tribulation. Je n'aimerais pas rester ici dans cette folie. Je n'aimerais pas rester ici quand il y aura des spectacles hideux. Des gens qui vont perdre la tête. Nous voyons des hommes qui cherchent à agir comme des bêtes, ressembler aux bêtes, et des femmes qui cherchent à ressembler aux animaux, avec des fards sur les visages. Nous savons que ces choses doivent arriver, ce qui a été prédit, et que les gens deviendront tellement fous que des sauterelles s'envoleront avec des cheveux comme ceux des femmes pour hanter des femmes, et avec des dents comme des lions, et des choses que tu as énoncées, la condition mentale des gens sera totalement ruinée. Nous voyons cela arriver maintenant même, Seigneur. Aide-nous. Donne-nous le bon sens de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô grand conducteur de la vie éternelle, nous acceptons ta promesse ce soir, Père. Je plaide pour ces gens. Je plaide pour chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Je prie que Christ, le Fils de Dieu, entre dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, qu'il nous modèle et qu'il fasse de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur Dieu. Nous t'aimons. Et nous aimerions que nos dispositions qu'il y ait un changement en nous, afin que nous puissions devenir tes enfants, que nous ressentions ton esprit se mouvoir dans nos cœurs. Seigneur, nous attendrir et nous amener à nous rendre compte de cet âge des fous dans lequel nous vivons. Accorde-le, ô Dieu. Et quand nous voyons des jeunes dames tellement prises dans le filet du diable, des jeunes hommes à la pensée pervertie, des enfants mordus, des stupéfiants, des fumeurs de cigarettes, des ivrognes, des immoraux, l'Éden de Satan. Ô Dieu, il t'a fallu 6000 ans, d'après la Bible, pour bâtir un Éden. Et tu as placé ton fils et sa femme là, sa future épouse, pour régner là. Et Satan est venu pervertir cela, il a eu 6000 ans, et il a bâti son propre Éden intellectuel par la science, l'instruction, et la soi-disant intelligence, et il a fait de cela un gâchis de mort. Ô Dieu, ramène-nous à l'Éden une fois de plus, Seigneur, là où il n'y a pas de mort, là où il n'y a pas de tristesse. Accorde-le, Seigneur. Nous nous tenons là humblement, attendant que le deuxième Adam vienne pour son épouse. Fais de nous une partie de lui, Père. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Notez que le monde Esther destiné à devenir fou, mais l'épouse Esther aussi destinée à recevoir la pensée de Christ, remplie de sa parole. Quelle différence! Observez ce qui arrive sur la terre. Frère Branham nous a avertis dans sa prédication. Christ est révélé dans sa propre parole 22 août 1965 MP 18. Et puis, le Seigneur voulant, quand nous aurons l'ouverture de ces 7 coupes, et que nous montrerons ces choses horribles. Au bout d'un certain temps, Les hommes seront tellement fous qu'ils s'imagineront voir des fourmis de la taille d'une montagne. Les femmes seront tourmentées, des sauterelles aux cheveux longs apparaîtront sur la terre. Pour tourmenter les femmes, qui auront coupé leurs cheveux, elles auront des cheveux comme des cheveux de femmes qui pendront, de longues dents comme des dents de lion, des aiguillons dans la queue comme un scorpion, et ainsi de suite tirés pour tourmenter les hommes sur la surface de la terre. Mais à ce moment-là il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Mettez-vous en règle tout de suite. Voyez-vous? Du tourment. La pluie de la première et de l'arrière-saison 3 mars 1960 p. 12. Maintenant, en descendant, je vous dis, j'ai failli être écrasé 3 ou 4 fois. Les gens se précipitent dans les rues, de ce côté-ci et de ce côté-là, sur une distance de 30 miles, 48,3 km, faisant 60 ou 70 miles, 96,6 ou 112,7 km, à l'heure, et allant juste à vive allure. La police les stoppe, les arrête, ils continuent juste de la même manière. Où vont-ils? Ils ne savent pas où ils vont. Je vous dis que cela coûte de savoir où vous allez. Ils se dirigent vers quelque part, mais ils ne savent pas où. Et, frère, sister une paix incertaine partout. Les nations sont incertaines. L'église ne sait quoi faire. Les gens ne savent quoi faire. Sester un manque de repos. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Sester le jugement qui approche. Vous feriez mieux de m'écouter. Le jugement qui approche. Nous pouvons mettre un milligramme dans chaque état et avoir un réveil jour et nuit. Cela Néhémie la ramènera jamais. Souvenez-vous de cela. Cela Néhémie le fera certainement pas. Elle est dirigée vers le jugement. Il n'y a rien d'autre qui reste. Et nous nous demandons pourquoi nous sommes si nerveux et bouleversés. Pourquoi ces institutions psychiatriques ici en haut et différents endroits sont pleins? Sester à cause de la boisson, du péché, de la nervosité, du whisky, des émeutes et d'une vie nocturne, ignorant la Bible, ignorant Dieu. Les nerveux, les névrosés, les dépressifs mentaux, le monde est plein de cela. Les pénitenciers, les institutions psychiatriques sont surchargées. Même le psychiatre doit avoir le traitement l'un de l'autre et on les trouve dans les institutions. C'est vrai. Et j'ai appris l'autre jour que certaines vedettes de cinéma et des chanteurs de ces parties de rock'n'roll, qu'un garçon remarquable du rock'n'roll doit avoir tout le temps 4 psychiatres avec lui. Oh! Pitié! Je suis heureux que nous avons un psychiatre, la pensée de Jésus-Christ, la puissance de Dieu, le discerneur des pensées de l'âme. Il est ce qui suit le chrétien. C'est à notre consolation. C'est à notre directeur. Ainsi, voir la condition de l'âge dans lequel nous vivons. Et quand nous le faisons, tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller aux Écritures pour voir celui qui a vaincu le monde. La Bible nous a prophétisé que l'âge du temps de la fin, l'âge de l'Odyssée que nous lisons dans Apocalypse 3, 14. Les gens seront riches, s'enrichiront, et Néhémie sachant pas qu'ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Cela parle de leur condition mentale. Pauvres, aveugles et nus, et ils ne le savent pas. Ils ne sont même pas conscients de leur état. C'est la folie du temps de la fin. Ainsi, j'aimerais relier cette condition mentale à la parabole de 10 vierges de Matthieu 25:1-13. Maintenant, je suis sûr que vous tous ici ce matin, ont lu cette parabole et en ont parlé. Ainsi souvent vous l'avez probablement manqué. Ce que je voudrais faire ce matin, c'est de la décortiquer pour ceux qui sont nouveaux dans la doctrine du message, particulièrement pour nos frères d'autres pays. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux serait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Maintenant, je veux que vous remarquiez une petite chose ici. Premièrement, Jésus commence par dire le royaume des cieux sera semblable à, et ensuite, il nous dit que cette parabole concerne les 10 vierges. Maintenant, je veux que vous remarquiez ce qu'il dit. Esther sera semblable à. Et l'usage particulier de ces mots semblables à signifie, illustré par des comparaisons. Ainsi, Jésus ne dit pas que Esther ce qui va arriver, mais plutôt il dit, de manière similaire, ce sera comme ceci. En d'autres termes, il fait une illustration et cette illustration Esther s'aussi donner une idée, de ce que sera le royaume des cieux à un certain moment. Dans d'autres paraboles qui se rapportent au royaume des cieux, ça parle de la présence de la parousie du roi, avec son peuple. En d'autres termes, elle parle du temps où le Fils de l'homme sera ici pour établir son royaume, en préparant le peuple de son royaume. Deuxièmement, il utilise le chiffre 10 en référence au nombre des vierges. Maintenant, c'est Esther très important, car le chiffre 10 est Esther un des chiffres parfaits et l'Esther significatif. Parce qu'il Esther la première décennie et représente le système numérique entier. Le système numérique entier arrivant à son achèvement. 0,1, 2,3, 4,5, 6,7, 8,9, et 10 recommence le tout. Parce que les deux premiers chiffres 0 et 1 sont tous deux utilisés dans cette première décennie, montrant qu'il n'y a plus des chiffres à être utilisés. Et le chiffre 10 signifie que le cycle anti-Esther est maintenant complet, et qu'un nouveau cycle Esther est sur le point de commencer. La raison pour laquelle je voudrais vous montrer la signification de ce chiffre, 10, que Jésus utilise ici, c'est Esther parce qu'on nous parle de 10 vierges. Il nous dit que ceci est Esther la fin des temps. C'est Esther la fin du cycle des vierges. Maintenant, nous pouvons le dire parce que le chiffre dit Esther utilisé à travers l'écriture pour représenter la fin d'un cycle, tel que Dieu a achevé le cycle complet de l'homme et de l'âge antédiluvien au jour de Noé. Remarquant la signification avec Noé, étant le 10e de la génération de fils de Dieu sur la terre. 1. Adam, génération 1, Esther créée. Une alliance conditionnelle. Astérisque 130. Adam et Ève obtiennent un fils. 7. Génération 2. Astérisque 235. Enoch Esther née, génération 3. Astérisque 325. Kenan Esther née, génération 4. Astérisque 395. Malaël Esther née, génération 5. Astérisque 460, Jared Esther né, génération 6. Astérisque 622, Enoch Esther né, génération 7. Astérisque 687, Methuselah Esther né, génération 8. Methuselah peut être traduit par, quand il meurt, il revient. Astérisque 874, Lamech Esther né, génération 9. Astérisque 930. Adam meurt, âgé de 930 ans, astérisque 987, Enoch Esther enlevé par Dieu, n'Esther pas mort, Genèse 5, 24, âgé de 365, astérisque 1042, Seth meurt, âgé de 912, astérisque 1056, Noé Esther né, génération 10, une autre alliance Esther faite, une alliance inconditionnelle. L'alliance de Dieu avec Noé était une alliance arc-en-ciel. Une alliance de vie. Après Noé, Dieu a recommencé avec l'homme et a parcouru un autre cycle, jusqu'à ce qu'il arriva à Abraham, qui est Esther la 10e génération à partir de Noé. Maintenant, nous avons une alliance inconditionnelle concernant la semence qui se rapporte à la vie Dieu. Astérisque 1140. Enoch meurt, âgé de 905 ans. Astérisque 1235, Kenan meurt, âgé de 910 ans. Astérisque 1290, Mahalalel meurt, âgé de 895 ans. Astérisque 1422, Jared meurt, âgé de 962 ans. Astérisque 1556, Noé a trois fils, Sem, Cham et Japhet. Génération 11, astérisque 1651, Lamech, le père de Noé, meurt, âgé de 777 ans. Astérisque 1656, Methuselah meurt à la même année que le déluge, âgé de 969 ans. Astérisque 1658, Arpachshad Esterné, génération 12. Astérisque 1693, Shéla Esterné, génération 13. Astérisque 1723, Héber Esterné, génération 14. Astérisque 1757, Peleg Esterné, génération 15. Astérisque 1787, Roé Esterné, génération 16. Astérisque 1819, Serug Esterné, génération 17. Astérisque 1849, Nahor Esterné, génération 18. Astérisque 1878, Terah Esterné, génération 19. Astérisque 1948, Abraham Esterné, génération 20. Une alliance inconditionnelle Esther faite, concernant la semence de Dieu, ou la vie Dieu. Et quelle en Esther la signification? Parce que Dieu a commencé une nouvelle relation avec l'homme, un nouveau cycle, et en ce moment, il a fait une autre alliance pour confirmer cette relation. Ainsi, nous voyons que Dieu a recommencé encore, cette fois, traitant avec une alliance spéciale. Une alliance inconditionnelle. Une alliance de la semence royale. Et il devait le faire avec sa promesse envers sa semence. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, alors pourquoi traite-t-il avec les 12 tribus et pas 10? Mais, remarquez qu'après l'errance dans le désert, deux tribus étaient retranchées de la terre promise et Dieu Esther rentrait de nouveau traité avec 10. Il y a 10 commandements, qui contiennent tout ce qui est nécessaire et rien Esther plus nécessaire, que ce soit pour le nombre, ainsi que l'ordre. Nous payons à Dieu nos dîmes qui Esther un dixième, et ce dixième représente l'entièreté, qui revient à Dieu, et montre le droit de Dieu sur l'entièreté. Alors nous voyons que les 10 plaies sur l'Égypte représentaient le cycle complet et total du jugement de Dieu sur cette nation. Ainsi, nous voyons que le chiffre 10 représente toute la conclusion, et se réfère à l'ordre des chiffres, arrivant à son cycle complet. Ainsi, en avançant dans l'étude des vierges du temps de la fin, en se référant au chiffre 10, concernant ces vierges, Jésus parle de la conclusion de l'Église intouchable, et qu'à la fin des temps, nous voyons cet époux qui vient prendre avec lui, juste une portion de ce nombre. 5 pour être exact. Lequel chiffre? 5 Esther représenté par 5 lettres grâce, grâce, 5. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Troisième, je veux que vous remarquiez que Jésus parle des vierges. À ce stade, nous n'y voyons aucune différence entre ces vierges. Elles sont toutes considérées comme étant vierges, ce qui signifie qu'elles n'ont pas été avec des hommes ou touchées par des hommes, et n'ont pas été engrossées par les credos et les dogmes des hommes. Maintenant, nous savons que selon Marc 4, 14 et Luc 8, 11, la semence que le semeur a semée, c'était la parole de Dieu ou Dieu, et dans 1 Pierre 1, 23. Il nous Esther dit que notre nouvelle naissance provient d'une semence incorruptible, qui Esther la parole de Dieu. Dans toutes ces écritures, nous voyons que la semence Esther utilisée comme type de la parole de Dieu, qui extrait une semence, car elle contient la vie. Pour être plus précis, la parole de Dieu contient la vie Dieu. Ainsi, Dieu a une parole qui extrait sa semence, et le diable a une parole qui extrait aussi une semence. Ce sont les deux semeurs qui sont allés semer. Et comme ces femmes sont appelées vierges, elles sont un type de l'Église, lesquelles n'ont pas été entachées par les credos et les dogmes des hommes. Dans sa prédication, les dix vierges 11 décembre 1960 M156. Frère Branham a dit, « Maintenant, observez, elles étaient toutes des vierges. Maintenant, laissez-moi prendre ceci. Ici, prenons les deux juste ici. Celle-ci était une vierge et cette autre de même. Celle-ci était une vierge folle et cette autre une vierge sage, mais les deux sont des vierges. Maintenant, si vous prenez ce nom de vierge et le parcourez, il signifie saint, propre, sanctifié. Le mot sanctifié vient du mot saint, qui signifie propre, comme le mot hébreu. Maintenant, c'est Esther un mot grec. Sanctifié signifie propre. Ainsi alors, ces dix vierges, qui le sont en parole et en œuvre, n'ont pas été corrompues par la semence de l'homme, ni la doctrine de l'homme. Quatrièmement, je veux que vous remarquiez que tous les dix vierges avaient des lampes. Maintenant dans Psaume 119, 105, nous lisons, ta parole Esther une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ainsi, nous voyons que les dix vierges sont des vierges qui se trimballent avec la Bible. Elles portent leur lampe. Ainsi, elles portent leur Bible. Maintenant, souvenez-vous, dans la Bible, une femme représente toujours une église. Frère Branham nous l'a enseigné. Dans sa prédication, pourquoi, nous n'émis sommes pas une dénomination? 27 septembre 1958-31, il dit, maintenant, une femme, dans la Bible, représente, l'Église. Combien savent cela? Nous sommes une épouse. L'Église Esther une épouse. Et de la prédication, le conflit entre Dieu et Satan 31 mai 1962-73. Il dit, le feu Esther est la confirmation de la lumière provenant de la parole. La Vierge intelligente, la Vierge sage, avait de l'huile dans sa lampe, et elle a nettoyé sa lampe et l'a allumée. Maintenant, qu'est-ce? Maintenant, Dieu Esther la parole. L'huile Esther le Saint-Esprit et le feu Esther la lumière de l'Évangile sur cette huile. Amen. Dieu l'a dit. Voyez, c'est Esther le vase. Très bien. L'huile Esther dans le vase, et le feu la brûle, montrant qu'il reflète la lumière de ce que la parole a dit. Voyez, c'est Esther la réflexion. Maintenant, cette vierge sage pouvait faire cela, mais cette autre, vierge folle, était à l'extérieur, n'avait pas d'huile. Et Néhémie pouvait rien refléter que leurs églises et dénominations. Voyez, maintenant, vous citez la parole. Vous dites que la parole est à esprit? Oui, monsieur. Dieu a dit, ma parole est à esprit. C'est Esther juste. La véritable épouse doit être unie par la parole. Maintenant, souvenez-vous, si elle est Esther une partie de Christ, elle doit être la parole de Christ. Pour être la parole de Christ, vous devez être baptisé en Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous croyez Christ et Christ Esther la parole. Remarquez, alors si la lumière était le reflet de la parole dans le vase, comme frère Branham l'a dit, alors la lumière représente la manifestation de la révélation dans le vase. Dans le dévoilement de Dieu paragraphe 126, frère Branham a dit, Qu'en serait-il si vous prononciez la parole et que la parole n'agisse pas? Quel bien l'épée ferait, elle est dire qu'elle n'est mi peu couper. Et cela n'est mi couprote, elle pas. Mais quand vous placez la parole de Dieu là et observez la couper, elle est terre tenue par une main destinée envoyée dans ce but. Voyez, coupez-la ouvertement, et s'estère ce qui l'estère. Cela montre Dieu publiquement, le grand Jéhovah. S'estère sa parole rendue manifeste, la portion promise pour le jour. Le saisissez-vous? Voyez, quand l'épée promise pour aujourd'hui, dans ce jour, ce qu'elle estère censé être, et Dieu prend sa parole et coupe le voile dénominationnel, et le tire en arrière, et se manifeste lui-même, et montre qu'il estère là, il demeure la même colonne de feu. Remarquez, s'estère la parole rendue manifeste pour les promesses d'aujourd'hui. Nous regardons à la lumière dans le vase, que représente l'huile, le Saint-Esprit en feu, ou allumé dans ce vase. Il a dit, et le feu la brûle, montrant qu'elle reflète la lumière de ce que la parole a dit. Ainsi, l'épouse reflète ou manifeste la parole, ce que la parole a déclaré qu'elle ferait. Et en revenant aux dix vierges, nous voyons qu'elle représente l'Église dans sa pureté, sans aucun credo fait des mains d'hommes parmi eux. Il n'est mis croix que cette Bible. Elle porte toute la Bible. S'estère une partie de leur tenue, leur garde-robe. Elles sont vêtues dans la parole. Cinquième, je veux que vous remarquiez que toutes les dix n'ont qu'une seule chose à l'esprit, et c'était en réponse à ce qu'elles avaient entendu du cri de minuit, le cri. Elles sont venues en réponse au cri, qui disait, sortez à la rencontre de l'époux. Et ainsi, toutes les dix sont sorties de n'importe où elles se trouvaient. Nous l'appellerons la dénomination. Comme le cri était entendu, sortez du milieu d'elle mon peuple ennemi, prenez pas part à ses péchés. Ce qui estère l'incrédulité. Sortez de ce système de l'incrédulité. Ainsi, toutes les dix vierges sont sorties en réponse au cri de minuit. Ce sont les gens du message, qui ont répondu au cri, le message, le cri de minuit. Jésus n'aimait dit rien de ces dix, comme ayant des yeux sur un autre homme. Ce Néhémie sont pas des femmes adultères. Elles sont pures, elles vivent pieusement et saintement et elles n'ont des yeux que pour l'époux. Après que Jésus ait prononcé les mots initiaux, ne laissant connaître qu'il traite avec un groupe des jeunes filles sanctifiées, il nous dit ensuite qu'il y a quelque chose qui en fin de compte, va amener une séparation entre ce groupe de dix dames. Maintenant, le sixième point, que nous voulons examiner. Est-ce que Jésus a maintenant divisé l'Église ou ce groupe des vierges ou dames en deux groupes? Il nous laisse savoir que l'un des groupes a une onction du Saint-Esprit dans son vase, et elle reflète et manifeste la parole tandis que l'autre, quoiqu'elles aient répondu au même cri, le même cri de minuit, pourtant elles n'ont aucune onction de l'Esprit de Dieu sur elles, et ainsi sa lampe est plutôt inutile pour elles. Elle n'émit reflète pas la lumière dans son vase. Elle n'émit manifeste pas la parole dans sa vie. Maintenant, arrêtons, nous ici et disons ceci. Et si Esther le chiffre de l'homme, ainsi nous voyons ici que ce sixième point doit traiter avec l'homme et la nature de l'homme. Et ainsi nous trouvons que Jésus commence à diviser ses dix dames en deux groupes de cinq. Ce qui nous amène au point 7. Que nous trouvons au verset 2, il nous dit « et cinq d'entre elles étaient sages », et ce mot, qu'il a utilisé ici, Esther, un mot grec, phronimo qui signifie « sage » mais vient de la racine du mot phron qui Esther plus décrit comme celui qui a une compréhension, ou une capacité de percevoir et avoir un jugement juste. Et nous savons que selon Matthieu 13, 10-17 et Marc 4, 10-12, qu'il y a un certain groupe des gens prédestinés, qui sont destinés à savoir, à comprendre et à percevoir. Et nous savons aussi qu'à travers ce que Jésus nous a dit dans les deux Écritures, que personne, à part ceux qui sont prédestinés, est capable de connaître ou de comprendre la parole. Et ceci est affirmé par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, où Paul nous dit que nul n'est mis peut comprendre les choses de Dieu, excepté l'Esprit de Dieu, en lui. Et en fait, il nous dit que à moins que vous n'ayez l'Esprit de Dieu, il est impossible pour vous de comprendre les choses de Dieu. Ainsi, c'est ce qu'est la parabole de dix vierges nous dit aussi. Qu'importe que vous fassiez attention au cri, le message, qu'importe que vous viviez une vie sainte, consacrée et mise à part, si vous n'avez pas l'huile, le Saint-Esprit en vous, vous n'y reflèterez pas la vie, vous n'y manifesterez plus la parole dans votre vie. Et ainsi, même si vous entendez le message « Allez à sa rencontre », quand vous sortez, vous n'y le verrez pas, quoi qu'il soit ici. Si vous voulez savoir si vous êtes né de nouveau ou pas, vous le saurez quand la parole de Dieu deviendra vivante, non seulement à vous, mais en vous. Paul a dit, Éphésiens 2, 1 vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Encore dans Colossiens 2, 13 vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et c'est votre clé, avec lui, car si ça vive et habite en vous, alors vous êtes vivant à sa parole et vous pouvez voir cela, alors que cela s'accomplit. Colossiens 3, 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans cette lettre audio level 00.05.964p, 2. Frère Branham dit, car s'il n'est mis le voit que dans le temps passé, alors il n'y a aucun espoir pour l'Église. L'Église doit voir cela au temps présent. Ainsi, Dieu envoie son prophète pour manifester le temps présent. Vous voyez? Et alors, après que Cester finit, alors Cester de l'histoire. Dans sa prédication, les uns au temps de la fin 25 juillet 1965 MP, 158. Il a dit, je suis ma envoyé. Je suis, non pas j'étais, ou serai, la parole maintenant. Non pas la parole qui était, la parole qui viendra, la parole qui est maintenant. Voyez, le saisissez-vous? Et encore dans sa prédication, les uns au temps de la fin 25 juillet 1965 MP, 168. Il a dit, car il est impossible pour ceux qui ont été, une fois éclairés qui n'ont pas avancé avec la parole, alors qu'elle s'accomplit. Ils sont morts, perdus. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, sache que Jésus a utilisé ici, du mot grec, phronimo, qui signifie d'être prudent ou sensible de manière pratique. Nous le voyons utiliser le même mot dans Matthieu 7, 24-27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, en d'autres termes les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée, sa fondation, sur le roc. Et nous savons que ce roc est une révélation, et Paul nous dit qu'aucune autre fondation n'est mise peut être construite que celle qu'il a été déjà, et c'est Christ. Et ainsi, nous lisons, mais quiconque entend ces paroles que je dis, et n'est mis les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Vous remarquerez ici qu'il n'a pas de fondation, la pluie est tombée, Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est terre tombée, et sa ruine a été grande. Dans cette parabole, nous verrons que les sages sont celles qui n'écoutent pas seulement, mais pratiquent ce qu'elles ont entendu. C'est-à-dire entendre, reconnaître et agir d'après la parole de Dieu, c'est-à-dire considérer être la chose la plus prudente et sensible à entendre. Certainement nous voyons que les vierges folles sont celles qui entendent, mais ne les mettent pas en pratique, et comme elles ne les mettent pas en pratique ce qu'elles entendent, elles ne les sont pas considérées comme sages et prudentes, mais folles, car elles pouvaient agir et sauver leur foyer, mais elles ne les l'ont pas fait, et ainsi, leurs foyers furent détruits. En d'autres termes, ils entendent mais parce qu'ils n'ont pas reconnu ce qu'ils entendent, ils n'aiment pratiquent pas ou n'aiment reflètent pas cette parole. Combien des croyants aujourd'hui observent leurs propres enfants suivre la mauvaise voie et sont conduits à la destruction, car ils n'ont pas appliqué le signe. Comment appliquez-vous quoi que ce soit? Vous vous en servez. Comment appliquez-vous les peintures? Vous devez ouvrir la boîte et d'une certaine manière, appliquer la peinture sur le mur. Frère Branham a dit, cela ne vous ferait aucun bien, jusqu'à ce que vous l'appliquiez, cela doit être appliqué. Et ça signifie que cela doit être mis en service, ou alors cela ne vous fera aucun bien. Maintenant, la seule différence entre la sage et la folle, Esther que l'une a sa fondation, bâtie sur la révélation de Jésus-Christ, alors que l'autre Néhémie l'a pas. Les mêmes vents de la doctrine soufflent sur les deux, elles étaient toutes deux, sujets de la même pluie, des vents et des inondations, que Esaïe 59, 19, nous avertit que quand l'ennemi vient comme un flot, l'Esprit du Seigneur élèvera un étendard contre lui. Mais la chose que je veux que vous notiez, Esther que les mêmes épreuves viendront à la fois sur les sages et les folles, mais les sages Néhémie ne failliront pas, pendant ce temps de test, car elles ont une fondation bâtie sur un roc, qui Esther une révélation. Elles ont une manifestation de la vérité divine. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. En d'autres termes, la parole leur avait oint, ce qui fait toute la différence dans le monde, parce qu'est ce que la parole a oint, c'est une parole vivante, tandis que pour les autres, ce n'est pas la parole vivante, mais plutôt un tas des préceptes et des règles qu'ils doivent suivre. Dans Esaïe 28, 9-13 Nif, nous voyons ce qui arrive à ceux qui entendent ce message et n'aiment le comprennent pas. Qui essaie d'enseigner? À qui explique-t-il son message? Aux enfants sevrés du lait. À ceux qui viennent d'être près du saint. Car Esther, précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Règle sur règle. Un peu ici. Un peu là. Très bien alors. Avec des lèvres étrangères et des langues étrangères. Dieu parlera à ce peuple. À qui il a dit. C'est Esther le lieu de repos, que les faibles s'y reposent, et c'est Esther le lieu de repos, mais ils n'écouteraient pas. Ainsi, alors la parole du Seigneur deviendra précepte sur précepte, règle sur règle, comme un peu ici, et un peu là, ainsi, ils s'en iront et tomberont en arrière, sont blessés, piégés et capturés. Et ainsi, nous voyons les vierges folles, qui n'avaient pas la parole de Dieu ointe, quand elles ont réalisé, combien c'était tard, elles sont allées vers ceux qui avaient compris le cri de minuit et elles ont commencé à chercher cette huile, mais c'était tard. Et quand elles ont réalisé, qu'elles n'en avaient pas, elles sont allées auprès de celles qui vendaient la parole ointe, l'huile, et ont essayé tout ce qu'elles pouvaient, pour travailler elles-mêmes jusqu'à la condition de l'onction, mais ce n'était pas disponible. Ainsi, lisons et voyons ce qui leur restait arrivé. Et cinq d'entre elles étaient sages et le point numéro 8, cinq de ces dames étaient folles. Maintenant, pour le comprendre, Jésus nous dit au verset suivant, pourquoi les cinq étaient folles. Trois celles qui étaient folles prirent leur lampe et n'emportèrent pas d'huile avec elles. Maintenant, voici la scène qu'il construit dans nos esprits. Ces dix vierges, elles sont toutes sur leur chemin pour rencontrer l'époux avec leur lampe, Bible en main, mais cinq d'entre elles n'avaient pas d'huile dans leur vase pour éclairer la parole. Ainsi, les lampes ou la parole de Dieu est-elle devenue inutile pour elles. Maintenant, la signification de cela est-elle que la lampe est utilisée pour éclairer le sentier devant vous, afin que vous, Naomi, puissiez pas vous perdre. Mais elle doit être allumée ou elle, Naomi, vous sera d'aucune utilité, juste un truc avec un poids supplémentaire à porter, ce qui est du légalisme. Maintenant, c'est pareil pour une lampe sans huile. Si la parole de Dieu n'est pas allumée dans notre cœur, elle, Naomi, vous fera aucun bien. Et ainsi, nous voyons ces dames porteuses des Bibles dans les ténèbres sans aucune lumière. Elles portent une lampe. La parole de Dieu, mais apparemment, elles, Naomi, savent pas comment l'utiliser, ou à quoi servait, elles. Autrement, elles devaient se rassurer qu'elles avaient de l'huile dans leur vase. Et combien des gens aujourd'hui professent d'avoir le message, la parole de Dieu, pourtant comme ils n'ont pas d'huile, ils ne savent pas comment utiliser cette grande lampe, parole de Dieu pour nous. Et ainsi, ils continuent à marcher dans les ténèbres et la lampe, ou la parole de Dieu, ne leur fait aucun bien, quoiqu'ils ont même écouté le cri de minuit, lequel est le cri de 1 Thessaloniciens, 4. Car ils ne savent pas comment utiliser la lampe, la parole, pour voir clairement que le message a déclaré qu'il est ici. Et ainsi, quand ils sortent dans leur dénomination et vont à la rencontre de l'époux, ils ne peuvent voir celui qui est ici. Pourquoi? Parce qu'ils regardent au vase, la venue, et ne comprennent pas qu'il y a l'apparition avant la venue. Celui qui est ici, est le Père de gloire, et il est le Dieu invisible. Et comme ils ne savent pas comment diviser correctement la parole de la vérité, alors, quelle lumière ont-ils libéré et qu'ils marchent dans les ténèbres complètes, non différents du reste du monde. Et ainsi, nous voyons cette scène pathétique se passer, où nous avons dix femmes. Ce sont de bonnes femmes, elles sont des dames, elles sont vierges, Naomi siégeant pas dans les dénominations. Elles, Naomi, sont pas touchées, vierges. Maintenant, le point numéro 9, nous prenons le verset 25. Quatre mâles et vierges sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Remarquez, que le vase est interconnecté à la lampe. La lampe estère la parole de Dieu, mais l'huile estère dans le vase, la personne. Ce n'estère pas l'huile dans la lampe, dans la parole. C'est estère l'huile dans leur vase, qui donne la lumière de la parole. Remarquez la signification de ces mots que Jésus utilise ici, et comment il le dit. Les sages prirent de l'huile dans leur vase. Ce qui signifie qu'ils avaient un vase, qui était séparé de la lampe. Maintenant, le vase représente leur être. L'apôtre Paul nous a dit, dans 1 Thessaloniciens 4, 3-4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps, vase, dans la sainteté et l'honnêteté. Ainsi, votre vase estère le corps que Dieu vous a donné. Votre vase estère votre corps. En d'autres termes, Nous devrions savoir comment garder notre vase sanctifié. Et le vase représente votre corps, votre être. Et encore, nous lisons dans Actes 9, 15, où Dieu parle à Anania au sujet de Paul. Mais le Seigneur lui dit, Dieu parlant à Anania, va, car cet homme, Paul, est un instrument, vase, que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël. Ainsi, nous voyons les cinq vierges sages prendre l'huile dans leur vase et nous savons que cette huile représente le Saint-Esprit ou l'onction de Dieu. 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, et s'en alla à Rema. Maintenant, laissez-moi vous montrer plus loin que cette huile. Néhémie représente pas seulement le Saint-Esprit dans le croyant, mais une capacité donnée au croyant, par le Saint-Esprit pour connaître et comprendre la parole de Dieu. Car l'onction a cette mission, de faire briller la lumière de Dieu, juste comme l'huile dans la lampe, fait briller la lumière à partir de la lampe. Dans 1 Jean 2, 20, nous lisons, pour vous, vous avez reçu l'onction, ce qui signifie l'onction, de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Ensuite, Jean le rend plus clair quand il dit, 21 je vous ai écrit, non que vous n'ayez connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge n'ayez vient de la vérité. Et remarquez, comment de manière claire, Jean parle au sujet de ce que cette onction fera pour vous, et aussi ce que son manque ferait. Il dit, 22 qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui qui oint. Ensuite remarqué comment Jean devient très très précis, de ce qu'est le mensonge celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Et souvenez, vous, le mot Esther une conjonction, reliant deux pensées ensemble. 2 Jean 9 quiconque va plus loin, ce qui signifie aller au-delà des limites, et Néhémie demeure pas, et Néhémie reste pas, dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, celui qui demeure dans cette doctrine a à la fois, le Père et le Fils. Ainsi, Jean Esther très précis, au sujet de ce qu'Esther un esprit antichrist. Alors, Jean rend plus clair la direction qu'il prend quand il dit 1 Jean 2, 23 quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Car si vous reniez que Jésus est le Fils de Dieu, alors vous faites de lui Dieu le Fils, et maintenant vous avez de Dieu. Et plus loin, si vous reniez qu'il est le Fils de Dieu, alors comment Dieu peut-il être un père? Un père a au minimum un enfant ou il n'est pas un père. Et sans un fils, Dieu est juste Dieu, mais Néhémie peut pas être un père. Alors, dire que Jésus est son propre père, ni le fait qu'il soit un fils, et ainsi cela nie que Dieu est un père, et vous voyez où cela mène-t-il? La confusion. Notez aussi, qu'il dit, quiconque nie le Fils, de même il n'a pas le Père, et le mot a, Esther un mot grec écho, et ainsi vous Néhémie, pouvez pas faire l'écho, ou refléter le Père, s'il n'a pas des enfants. Celui qui reconnaît le Fils a, fait l'écho ou reflète le Fils, fait écho le Père aussi au combien c'est Esther beau, quand les Écritures se marient. Romains 8 29 car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et ce mot conforme, n'est-ce pas le même mot qu'il a utilisé quand il nous a parlé, de Néhémie pas être conforme au monde. Et si nous devons être conformes à l'image de son fils premier né, alors de quelle image s'agit-il? Philippiens 3, 20-21. Mais notre cité nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ainsi, nous aurons un corps glorifié, juste comme le frère aîné a reçu son corps glorifié. Maintenant, nous devons avancer car ceci prend trop de temps. Matthieu 25, 5 comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. Maintenant, nous pourrions prendre un peu de temps sur ceci, mais nous savons que pendant les âges de l'Église, c'était comme une sorte de sommeil, pendant ces âges sombres, quand la parole de Dieu était en somnolence. Mais remarquez, le verset suivant est combien précis Esther le temps que Jésus apporte cette parabole. Il nous dit que s'Esther presque la fin du jour, ça se passe à la fin de temps. S'Esther presque au minuit. Maintenant, nous avons fini 9 points en ce moment, et nous approchons du point numéro 10. Et que représente 10? Il représente que le cycle entier Esther complet. Et que voyons, nous au point numéro 10? 10, 6 au milieu de la nuit, on cria, et à la fin du jour, quand il n'y a plus de temps resté, c'était à minuit. Et Néhémie voyons, nous pas cette même chose dans Apocalypse 10, 7. Quand il n'y aura plus de temps? Maintenant, le point suivant Esther le numéro 11. Lequel Esther 1 plus 1? Égale 2. Et Esther le chiffre sous lequel frère Branham Esther né. Il Esther le numéro 2 par naissance. 6 avril 1909 égale 4 plus 6 plus 1 et vous annulez le 9,09 et Esther 1 11. Qui Esther aussi un 2. Car les 9 sont annulés. Et remarquez ce cri de minuit. Maintenant, je veux que vous remarquiez qu'elles ont toutes entendu le cri de minuit. Esther se juste. Ainsi, pour que les gens entendent le cri de minuit, ils doivent être des ouvriers de la 11e heure, dont Jésus parle dans une autre parabole. Parce que les ouvriers de la 11e heure seront ceux qui seront proches pour entendre le cri de minuit. Nous en parlerons dans une autre prédication. Ainsi, cela doit être assez forte. Esther se juste, et ce mot cri ici, signifie parler plus fort ou avec une voix forte. Ce qui Esther appelait un cri, Esther se juste. Ainsi, nous pouvons dire que toutes les vierges, à la fois les sages et les folles ont entendu ce cri de minuit. Et qu'était le cri? C'était voici, qui signifie, regarde et vois. L'époux vient. Il est Esther sur son chemin. Et qui se tenait là, frappant à la porte? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'était la parole. Et c'était Apocalypse 3, la parole se tenant à l'extérieur de l'église, frappant. Et Jésus nous a dit dans Jean 12 que la parole jugerait dans les derniers jours. Ainsi, nous voyons dans Jacques 5, voici, le juge se tient à la porte. Ainsi, nous savons que la parole de Dieu frappe à la porte en 7 heures de minuit disant, je suis ici, sortez à ma rencontre. Nous voyons la même chose dans Apocalypse 10. Ou le même mot raciniste est utilisé pour exprimer ce grand cri au verset 3. Au verset 1, le Seigneur lui-même descend, et au verset 3 il cria d'une voix forte, ce qui Esther un cri, comme un lion rugit, et quand il cria, sept tonnerres furent entendre leur voix. Et nous savons qu'une voix forte comme un lion représente une voix prophétique, ou celle d'un prophète. Dieu parlant à travers son prophète, comme nous le voyons dans Amos 3, 7-8 car le Seigneur, l'Éternel, Néhémie fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, non pas des grincements, mais rugit, Un cri, qui Néhémie sera effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui Néhémie prophétiserait? Regardez, même le prophète Néhémie pouvait l'empêcher. Frère Branham l'a dit dans sa prédication, les oints au temps de la fin 25 juillet 1965 M269 maintenant. Je veux que vous sachiez que c'est Esther certain. Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherchais à dire ça de moi, vu que c'est Esther moi qui apporte ce message. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix. Rien de plus. Et, ma voix, même contre mon propre gré, je voulais être trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c'est Esther la volonté de mon père. Je ne m'y suis pas celui qui Esther apparut là-bas à la rivière, je me tenais simplement là quand lui Esther apparut. Je ne m'y suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite, je suis seulement quelqu'un qui Esther proche quand lui les fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi, je savais. C'est Esther seulement que je me suis abandonné, pour qu'il parle à travers moi. Ce n'Esther pas moi, ce n'était pas le septième ange. Oh non, c'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange. Son message, c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'Esther pas un homme, c'est Esther Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme, il était le messager du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Esther Christ, c'est Esther de lui que vous vous nourrissez. Vous Néhémie vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps-parole infaillible du Fils de l'homme. Et ce n'était pas différent avec Jean, le Baptiste. Il a dit ces mêmes paroles en décrivant ce qui s'Esther passait dans son ministère. John Matt, il a dit, « Je suis simplement la voix de celui qui crie dans le désert. » Et Dieu Esther le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Dieu Néhémie change pas. Ainsi, Néhémie regardez pas au vase, regardez à Dieu, qui utilise le vase. Vous n'adorez pas le vase. Ce vase n'Esther pas Dieu, c'est Esther juste un masque que Dieu choisit pour œuvrer à travers et s'exprimer lui-même à travers. Vous n'adorez pas le buisson ardent, vous n'adorez pas la colonne de feu ou la nuée, ou le rocher qui les suivait dans le désert. Et pourtant ces choses étaient Christ, non pas l'homme, mais ils étaient oints. Christ signifie l'onction. Et Dieu a oint ces choses de sa présence, mais n'a pas fait ces choses, Dieu. Pas plus que la terre soit Dieu, et, pourtant Dieu Esther descendu avec sa présence et a oint cette terre de sa présence. Et les arbres des champs ont battu leurs mains, etc. De toute façon, non pas pour quitter notre sujet, mais remarquez ce qu'était ce cri de minuit. Voici, l'époux, allait à sa rencontre. Maintenant, remarquez que ce cri était, non pas, voici l'époux Esther ici, mais ce mot venu, c'est Esther le mot Hershomet, qui signifie encore à venir. Ce n'Esther pas le mot parousia, qui signifie être déjà venu, il Esther présent. Non, ce cri de minuit parle de la venue de l'époux. Ainsi, si cela parle de la venue de l'époux, alors l'époux n'Esther pas encore venu, quand on entend ce cri. Alors qui crie? Le cri de minuit. Certainement que ce n'Esther pas l'époux, mais un autre, qui déclare l'arrivée proche de l'époux. Et quand le roi invitait pour la fête des noces de son fils, remarquez qu'il est Esther celui qui convoquait le mariage, c'est Esther lui qui appelait. C'est Esther le roi qui produit le cri. Et frère Branham dit dans sa prédication, La guérison divine 19 décembre 1954 M283. Je suis si content aujourd'hui de savoir que Dieu Esther parmi nous. Le cri du roi Esther ici. La manière d'un vrai prophète 19 janvier 1963-66. Il y avait un cri du roi dans le camp. Dieu était avec eux. Écoutez, les 25 janvier 1957-78 au Dieu. Combien nous t'aimons. Combien nous t'adorons. Tu es aille parmi nous. Le cri du roi Esther ici. Le grand Jéhovah. Unis sous une seule tête 26 mars 1958-50. Je crois que sa présence Esther ici. Le roi. Il y a un cri du roi. Le temps de la décision 18 avril 1959-44. Mais qu'a-t-il manqué de voir? Il a manqué d'entendre le cri du roi dans le camp là-bas. Ils avaient le rocher frappé. Ils avaient une colonne de feu. Un signe surnaturel. Ils ont manqué de le voir. C'est Esther cela le problème avec le monde aujourd'hui? Ils manquent de le voir. La condamnation par la représentation 13 novembre 1960-35-2. Et nous croyons qu'il doit y avoir une église dans les derniers jours, qui recevra à la fois, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ce sera dispersé à travers le monde dans cet âge de l'Odyssée. Il y aura une église qui sera ramenée à la foi originale en Dieu. Ce sera une église qui aura Jésus-Christ marchant en elle. Se manifestant lui-même, le cri du roi sera en elle. 12. 6 au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Maintenant, je connais ce que votre version du roi Jacques dit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Mais Esther une mauvaise traduction. L'original dit, voici l'époux. Sortez pour le rencontrer. Vous voyez, le message, c'est Esther toujours de sortir, non pas d'aller dehors, car celui qui proclame le message, n'est-il pas à l'intérieur avec vous, mais à l'extérieur, disant, sortez du milieu d'elle et séparez-vous dit, qui? Dit le Seigneur. Ainsi, qui dit, sors pour rencontrer mon fils, le roi de gloire. Certainement. Il est-il celui qui vous a invité au mariage. Il est-il celui qui prépare le grand souper. Il est-il celui qui de l'extérieur vous appelle à sortir et nous voyons cela dans Apocalypse 3, 20. Car c'est est-il la parole qui nous appelle à sortir et Dieu est-il la parole. Jésus nous a dit dans Jean 12, 48 que la parole jugera dans les derniers jours. Alors qui est-il le juge qui se tient à la porte dans Jacques 5, 9. Esther Dieu, la parole. Maintenant dans 2 Corinthiens 6, 17-18 Esther pourquoi? Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, Néhémie touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous voyons la même chose dans Apocalypse 18, 4, où Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de Néhémie pas participer à ses péchés. Il est le même et Néhémie change pas. Dieu a dit, je suis celui qui suis, et s'il Néhémie change pas, alors à chaque fois que nous voyons l'Écriture nous dit de sortir, nous savons que c'est Esther le Père qui nous appelle à venir. Juste comme nous avons vu le roi, Père appelant le peuple à venir au mariage de l'époux. Dans Matthieu 22, 1-14, nous lisons, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais Néhémie voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant, dites aux conviés, Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est-il prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ainsi, ce cri du roi qui se fit entendre, concerne le mariage du fils du roi, Esther l'apparition avant la venue. 13. Maintenant, 13 Esther le nombre des États-Unis, et nous n'avons pas le temps d'entrer dedans, mais nous avons déjà prêché là-dessus. Ainsi, nous allons mettre de côté cette partie pour le moment, mais je veux que vous remarquiez, dans Matthieu 25, c'est alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Maintenant, remarquez que Esther le verset 7. Et Esther Matthieu 25. Qui Esther 2 plus 5 égale 7. Ainsi nous avons une double confirmation de 7. Qui Esther un achèvement ici. Et au septième âge, Esther le temps de la préparation des lampes. Maintenant, souvenez-vous que la lampe, c'est Esther la parole de Dieu. Ainsi, que veut dire préparer la lampe? Remarquez que quand elles ont commencé à préparer leur lampe, je crois qu'elles sont dès la parole pour comprendre ce qu'était ce cri de minuit. C'est Esther là, la vraie différence qui apparaît entre les vierges. Les sages ont le Saint-Esprit était prête, pendant que les folles avaient réalisé qu'elles n'avaient pas l'huile qui représente le Saint-Esprit. C'est Esther la différence entre elles. Mais cela exige le cri pour ressortir cela. Et c'est Esther aussi la raison, selon laquelle les sages connaissaient qui était à la porte et non les folles. Je pense que cela parle aussi des sages ayant une compréhension de la pierre de fait retournant, criant grâce, grâce pour elle car les folles n'étaient pas prévenues de cette grâce, apparemment. Quand elles ont sondé la parole, elles ont vu quelque chose à l'intérieur, qu'elles devaient faire pour elles-mêmes, pendant que les vierges en préparant leur lampe, virent les Écritures, disant qu'il préparera un peuple, et aussi, celui qui a commencé l'œuvre en vous, l'achèvera et d'autres Écritures, ne laissant connaître comment nous, devons l'approcher. Et ainsi, les sages sont allés vers lui pendant que les folles ont commencé à fournir leurs propres efforts. 8 Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Remarquez, leurs lampes s'étaient éteintes. Ce qui signifie qu'elles étaient allumées avant. Ce qui signifie que leur mèche était une fois en contact avec l'huile, l'esprit, et alors, elle pourra être allumée et apporter la lumière. Mais oh, les croyants du message, vous qui écouterez cette prédication, et vous qui la lirez, Paul a dit, vous avez bien couru, qu'Esther ce qui vous a gêné, et ainsi, au verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Et nous avons plus des gens, vendant le message plus qu'à n'importe quel autre moment, et vous pouvez le solder, que si vous n'avez pas une bibliothèque pleine du message, cela montre que vous avez placé autre chose, à la place de la parole de Dieu. Dis pendant qu'elles allaient en acheter, remarquez, les dernières choses qui arrivent avant que les Pounéemi viennent, Esther que les vierges folles se sont retrouvées dans un marché. Et qu'en est-il de toute cette clameur aujourd'hui dans ce message? N'est-ce ce pas au sujet de qui a le droit de vendre le message? Néhémie pouvait, vous pas voir où nous en sommes aujourd'hui. Dis pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Remarquez, l'attention de ces deux groupes des vierges. Les sages sont sortis à la rencontre de l'époux. Et les autres vierges sont allées vers ceux qui vendaient de l'huile. Ainsi, pendant que les unes se concentraient pour rencontrer l'époux, les autres se concentraient à trouver ceux qui vendaient. C'est-à-dire juste. Cela devrait secouer les gens, parce que Esther c'est clair, et Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Et si vous Néhémie, pouvez pas voir que cette écriture Esther accomplie, vous êtes aveugle et nu et Néhémie le savait pas. Dans sa prédication, le départ secret et soudain de l'église 12 octobre 1958. Frère Branham dit, elles étaient prêtes pour aller à sa rencontre. Mais certains d'entre elles avaient épuisé leur huile. Que cela Néhémie soit pas votre cas. Gardez de l'huile dans votre lampe. L'huile Esther l'esprit, le Saint-Esprit. Néhémie le laissez jamais tarir en vous. Quand vous sentez que votre amour se meurt, votre sincérité envers Christ et à la cause, allez rapidement vers lui. Qui Esther la fontaine d'huile est achetée pour vous-même, un remplissage du Saint-Esprit. Et dans sa prédication, le livre de vie de l'agneau 3 juin 1956 au moins 28. Il a dit, Noé était le type de ce qui est à transporter, comme la Vierge endormie, mais Enoch a été enlevé avant que la tribulation Néhémie survienne. Enoch fut enlevé et Néhémie parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, le type du départ de l'Église. Et Noé l'observait. Lorsqu'il a vu Enoch partir, il a su qu'il était temps d'entrer dans l'arche pour échapper à la tribulation. La Bible dit qu'il y avait 10 vierges qui allèrent à la rencontre de leur époux. Et 5 d'entre elles étaient sages, 5 étaient folles. Et elles étaient toutes des vierges, chacune d'elles. Mais 5 étaient sages et avaient de l'huile dans leur lampe. Et elles allèrent à la rencontre de l'époux. Et l'époux vint et celles qui avaient de l'huile entrèrent. Voyez, le ravissement, le départ avec l'époux. Mais celles qui étaient restées en arrière vinrent et voulurent aussi entrer, exactement comme les gens qui vinrent frapper à la porte de l'arche disant, « Noé, laisse-nous entrer. » Mais Dieu avait fermé la porte. Non. Mon ami, l'un de ces jours, Dieu vous appellera pour la dernière fois. La porte entre la grâce et le jugement sera alors fermée. Néhémie restez pas à l'extérieur. Entrez maintenant pendant que vous en avez la possibilité. Néhémie faites pas attention à ce que dit le monde. Entrez en Christ. Car ceux qui sont en Christ, Dieu les ramènera avec lui. Voyez-vous? Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose ici. Pendant que les autres, qui étaient considérés comme folles, étaient sortis pour essayer de trouver un peu d'onction, pour comprendre ce cri de minuit, les autres sont entrés dans le mariage dans la présence de l'époux. Comme il a Esther dit, entrèrent avec lui. 11 plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Après un moment, les autres ont compris qui était celui qui frappait à la porte et qui était présent. Mais c'était alors trop tard. Elles l'ont manqué, parce qu'elles n'étaient pas prêtes. La parole n'était pas ointe pour elles et elles ont manqué la révélation de Jésus-Christ. Elles sont restées en arrière pour la période de tribulation. 12 000 et répondit, « Je vous le dis en vérité, je n'ai aimé vous connais pas. » Ce mot, « connaître ici », est un mot grec qui signifie de connaître pleinement mais dans le contexte que Jésus l'utilise. Cela voudrait dire, « Je n'ai jamais eu réellement, de relation consommée avec vous et donc, comme a dit le docteur Hoyer du collège de Wheaton de l'Illinois, qui était une fois, considéré comme étant le plus grand des étudiants du grec au U.S.A. Ceci devrait être traduit comme, j'ai eu à te connaître comme ma femme, mais je n'ai aimé te connais plus comme ma femme. En d'autres termes, nous n'avons jamais consommé notre relation ensemble et donc, je n'ai aimé vous ai jamais réellement connu de manière conjugale de la parole. Finalement, nous entendons Jésus parler de cet avertissement concernant cette parabole et ce qu'elle signifie. Au verset 13, veillez donc, puisque vous n'aimez savez ni le jour, ni l'heure. Et certainement que ce mot veiller signifie de garder toujours un œil vigilant, ou une vigilance spirituelle pour la parousie du Fils de l'homme. Et souvenez-vous, si ce cri de minuit demeure un secret pour vous, alors cela n'aimez vous a pas été révélé, et aussi longtemps que cela n'aimez vous a pas été révélé, elle n'aimez vous appartient pas encore. Car nous lisons dans Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Maintenant, frère Branham dit, quand vous avez été véritablement baptisé du Saint-Esprit, alors le message n'est plus un mystère pour vous. Ce n'est plus un secret pour vous. Vous le savez. C'est entièrement illuminé devant vous. Je n'y pense pas que vous aurez besoin d'une personne pour vous mettre à côté et vous parler au sujet des dîmes, ou l'importance d'être à l'église. Vous y serez automatiquement. Quand ces portes s'ouvrent, parce que c'est réel pour vous, et comme vous l'aimez beaucoup, que vous n'y pouvez pas vous passer de lui. Et comme c'est réel, vous aurez faim et soif de lui, que vous pourriez en avoir. Vous n'aurez pas besoin de quelqu'un pour vous tenir par la main et vous porter comme un bébé, tout le long, parce que vous êtes prêt de vivre, ou mourir, et vie ou vous noyer, ou qu'importe ce qui serait nécessaire pour la cause de sa parole. Vous voyez, c'est ce qu'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas juste venir à une communion. C'est d'être né de nouveau, comme une personne nouvelle, une nouvelle création en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'y vivez pas pour votre travail, vous n'y vivez pas pour vos vacances. Vous n'y vivez pas pour votre nouveau véhicule, comme le reste du monde le fait. Vous vivez parce que Christ vit en vous. Vous n'avez pas des papilles gustatives pour les choses du monde. Je n'y dis pas que certaines de ces choses, n'y sont pas agréables à avoir, mais elles n'y peuvent pas réellement procurer de la satisfaction. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse satisfaire, et c'est de le connaître lui. Et quelle est l'évidence qu'il vous a rempli du Saint-Esprit, et que vous avez été baptisé dans l'Esprit du Dieu vivant? Quand vous avez été véritablement baptisé du Saint-Esprit, alors, le message n'est plus un mystère pour vous. Ce n'est plus un secret pour vous. Vous le savez, c'est tout illuminé devant vous. Maintenant, laissez-moi lire une citation de plus, avant que nous puissions partir. Question et réponse du 23 août 1964 S306 après que l'épouse aura été enlevée. Y aura-t-il des vierges folles qui seront sauvées? Ou seront-elles toutes perdues? Non. Voyez-vous, tout sera terminé pour l'Église des nations quand l'épouse sera enlevée de la terre. L'Esprit de Dieu quitte la terre, que celui qui a Esther souillé se souille encore, que celui qui a Esther juste pratique encore la justice, que celui qui a Esther saint se sanctifie encore. En d'autres termes, le sanctuaire Esther rempli de fumée, là où l'avocat se tient pour plaider la cause. Christ quitte le sanctuaire, le jour de sa médiation Esther terminée. L'enlèvement a lieu, il quitte le sanctuaire, il s'avance et prend le livre de la rédemption, et il réclame tout ce qu'il a racheté. Il n'y a plus d'œuvre de médiation. Combien comprennent cela? J'en ai parlé dans l'un des sceaux ou plutôt l'un des... Oui. Les sceaux. Je crois que c'était cela. Où Christ s'avance pour réclamer le produit de son œuvre de médiation. Maintenant. Une minute. Les vierges folles seront-elles sauvées? Non. Tout ce qui doit arriver, elle arrive maintenant. Après cela, elles seront dans la condition. Eh bien, elles devront passer par la tribulation. Et la raison en Esther qu'elles ont rejeté l'expiation dans sa plénitude. Ce sont des croyantes. Elles professent être croyantes. Mais elles devront passer par la tribulation. Inclinons nos têtes pour la prière. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bill Venga, bilvenga@yahoo.fr. C'est Grace Fellowship Tabernacle.